Actu SF, les podcasts.
Bonsoir et soyez les bienvenus pour ce sujet grave. Je l'ai faite, la bêtise. On va essayer de tenir dans les temps parce que je pense que vous êtes nombreux à attendre le palmarès qui va suivre. Alors, la chute des corps, c'est une expérience que nous vivons tous dès le plus jeune âge. Nous attrapons des objets, les objets ont la fâcheuse tendance à tomber vers le bas. Lorsque nous commençons à marcher sur deux jambes, bizarrement, le sol a la fâcheuse habitude de se relever vers la tête. Et les objets, certains restent suspendus en l'air. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles, quand on est enfant, on est fasciné par les ballons. Ça ne tombe pas, ça reste en l'air. Quand vous regardez la Lune, ça reste aussi en l'air. Donc je pense aussi que la fascination qu'on a eue très vite pour la Lune tient un peu de ça. Alors, la chute des corps, la gravitation qui est responsable de cette chute des corps, c'est ce que nous allons étudier un petit peu ce soir, en une heure, en faisant pas mal de physique, je pense, mais en faisant aussi un peu d'histoire de la science-fiction et aborder aussi la hard science-fiction. Alors, avec moi, Roland Lehoucq. Normalement, on ne le présente plus, mais pour les deux d'entre vous qui ne le connaissent pas encore, Roland Lehoucq est président de l'association du festival Les Utopiales, astrophysicien au CEA, commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, enseignant à l'École polytechnique et à l'Institut d'études politiques de Paris. Et Roland tient une chronique scientifique qui s'appelle Scientifiction dans la revue Bifrost, que vous êtes très nombreux à connaître, et la rubrique Science et Fiction de la revue Pour la Science avec Jean-Sébastien Steyer. Et puis nous avons Éric Pichol, physicien au CNRS, spécialiste d'optique non linéaire et quantique. Il enseigne la philosophie des sciences à l'Université de Nice. Il est auteur de nouvelles hard science-fiction. Et il a reçu en 2009 le Grand Prix de l'imaginaire pour son essai « Solution non satisfaisante, une anatomie » de Robert Heinlein, en collaboration avec Hugo Bellagamba. Il co-anime les journées interdisciplinaires sciences et fiction de Peresc, ainsi que les journées enseignement et science-fiction. Alors, pour commencer, qu'est-ce que c'est que cette force ? Roland, tu dis volontiers de cette force que c'est une force faible, mais têtue. Qu'est-ce que tu entends par là ?
Alors la gravité est une force faible, mais têtue. Faible parce que si on la compare en intensité relative aux autres forces de la nature, aux autres interactions fondamentales que sont l'interaction électrostatique et les deux interactions nucléaires, eh bien elle est effectivement faible. L'interaction nucléaire forte, si on dit que ça vaut 1, l'interaction nucléaire faible, ça vaut 1/10 millième. Et l'interaction électrostatique, ça vaut 1/100. Donc l'interaction électrostatique est entre les deux interactions nucléaires. Et l'interaction gravitationnelle, c'est 10 puissance moins 36. 0, beaucoup de 0 et 1. Donc 10, 35, 0 et 1 à la fin. Donc c'est une force qui est extraordinairement faible. Alors évidemment, quand on se casse la figure, ce n'est pas tout à fait l'impression que l'on a. Mais c'est une force extraordinairement faible, mais elle est têtue en ce sens que si on considère un système constitué de particules, soit qui s'attirent par leur masse, la gravité c'est l'attirance de la matière pour la matière, soit de particules qui s'attirent ou se repoussent par leur charge électrique. On va prendre le même nombre de particules et on va comparer deux situations. Alors, dans le cas de la force électrostatique, de la force électrique entre charges, comme la matière est globalement neutre, il y a des charges positives, il y a des charges négatives, en même quantité dans la matière, ce qui fait que la matière à notre échelle n'a pas de charge électrique, eh bien, globalement, les charges positives vont être écrantées par des charges négatives qui vont aller vers elles, et réciproquement, une charge négative va être attirant à elle les charges positives, va être écrantée par ces charges positives. Et donc, ce qui fait que, vu de loin, eh bien, effectivement, la matière est globalement neutre, et qu'un atome de ma cuisse ne sera sensible qu'aux atomes voisins, à ceux qui sont proches de lui. Ceux qui sont loin, il ne les ressentira pas par l'interaction électrostatique, parce que, essentiellement, entre lui et un atome un peu lointain, et un peu lointain, ça veut dire quelques tailles atomiques, hein, donc c'est des échelles de taille qui sont de l'ordre du nanomètre, milliardième de mètre, il ne ressentira pas l'interaction électrostatique d'objets un peu lointains de lui. Donc en pratique, l'interaction électrostatique a une portée finie, alors que théoriquement, elle a une portée infinie. Deux charges électriques s'attirent ou se repoussent à toute distance. La gravitation, comme l'interaction électrostatique, a une portée infinie. Deux masses s'attirent à toute distance, mais il n'y a pas l'équivalent gravitationnel de la charge électrique négative. Il n'y a que des masses, dans ce qu'on observe du monde, positives. L'interaction est toujours attractive. Et donc, un atome de ma cuisse va être sensible à l'ensemble des atomes de la Terre. Et l'interaction qu'il a avec l'ensemble des atomes de la Terre, ça s'appelle son poids. Et donc, un atome quelconque est sensible à l'ensemble des atomes qui l'entourent, gravitationnellement parlant, tandis qu'il n'est sensible qu'aux ses plus proches voisins du point de vue de l'interaction électrostatique. J'écarte d'emblée l'interaction nucléaire qui a une portée extrêmement petite, du millionième, de milliardième de mètre. Donc elle ne nous intéresse pas à l'échelle de l'atome, mais aux échelles, nos échelles, et a fortiori aux échelles cosmologiques, cosmiques. Donc au final, chaque grain de matière supplémentaire dans la Terre a une influence et subit l'influence sur l'ensemble, alors que du point de vue électrostatique, il n'est sensible qu'à ses plus proches voisins. Et donc, du coup, la force gravitationnelle qui est très faible, elle va varier comme le nombre de couples de particules. Et quand j'ai n particules, j'ai n au carré couples. Quand j'ai 10 particules, j'ai en gros 10 fois 10 couples. 10 fois 10 sur 2, et pas tout à fait. 10 fois 9 sur 2, bon, pour ceux qui seront les puristes de la salle. Mais en gros, ça varie comme le carré du nombre de particules, là où la force électrostatique varie comme le nombre de particules. On est sensible qu'à ses plus proches voisins. Au final, un grand système, plus le nombre de particules est grand, plus la gravité va commencer à jouer un rôle important, parce qu'elle est peut-être faible, mais têtue. Elle varie comme le carré du nombre de particules. Et une planète comme la Terre, eh bien, elle est sensible essentiellement à sa propre gravité. Un objet comme un astéroïde n'est pas sensible qu'à sa propre gravité, il est aussi sensible à la force électrostatique. Nous-mêmes sommes sensibles à l'interaction électrostatique et pas à notre propre gravité. La preuve, nous, et les astéroïdes ne sommes pas sphériques, tandis qu'une planète, la Terre, Jupiter, toutes les planètes, les grosses planètes, et puis évidemment le Soleil et les étoiles, sont sensibles à la gravité dans leur ensemble, leur propre gravité. Ils ont une forme sphérique, parce que la gravité est une force asymétrique sphérique.
D'accord, on reviendra sur la forme des objets.
Voilà l'idée derrière ça. Elle est très faible, mais comme elle est sensible au nombre de couples de particules, parce que chaque particule est sensible à toutes les autres, si on prend un grand nombre de particules, c'est elle qui sera la force dominante.
Éric.
À ma foi, c'est difficile de ne pas être d'accord avec Roland, dans la mesure où, évidemment, quand je dois enseigner la mécanique classique, je raconte essentiellement la même chose aux étudiants. Soit dit, je vais essayer quand même, parce que sinon, ce n'est pas drôle. Je dirais que Roland est parti avec un point de vue newtonien tout à fait traditionnel, tout à fait canonique, et qui est effectivement quasiment universellement admis aujourd'hui. Ça n'a pas toujours été le cas. Et c'est aussi remis en cause d'une certaine façon aujourd'hui, mais on parlera de relativité générale un peu plus tard sans doute. Si on remonte un peu plus loin, si on remonte aux Grecs par exemple, c'est-à-dire bien avant Newton, on n'a pas la notion de force, en tout cas elle n'a rien à voir avec la vision de Newton, et on n'a pas la notion de gravitation. Pour Aristote, on a deux types d'objets, on a les objets, les graves, donc les objets qui ont un lieu naturel, en l'occurrence le centre de la Terre, et dont la tendance est de rejoindre leur lieu naturel. Donc si un objet chute vers le centre de la Terre, ce n'est pas du tout parce qu'il subit une force, on n'a pas du tout l'idée de ce genre de choses, c'est simplement parce qu'il veut retourner au centre de la Terre. Puis il y a d'autres types d'objets qui sont les objets célestes. Pour Aristote, la différence, c'est essentiellement la Lune. Il y a les objets supralunaires qui sont des objets célestes et les objets infralunaires qui sont périssables et qui retournent au centre de la Terre. Les objets célestes comme la Lune n'ont pas de lieu naturel, ils ont un mouvement naturel. Eux, ils tournent en rond indéfiniment. Et ce sont simplement deux classes d'objets différents, avec des comportements différents, et on n'a pas besoin de notion de force du tout pour interpréter ce genre de choses. Et pour rester un instant sur cette notion de force, alors qui fait le triomphe de Newton, c'est qu'on a tous appris à l'école que F égale M gamma, c'est quelque chose qui marche très bien, qui permet de résoudre tous les problèmes de mécanique qui peuvent se poser, en tout cas au niveau lycée, des premières années universitaires. Dès l'instant où elles ont été publiées dans les principes mathématiques de Newton, elles ont été violemment contestées. Vous savez tous, vous avez tous vu au moins au lycée la formulation newtonienne de la force. Donc la force entre deux objets de masse m prime, c'est proportionnel au produit de m et de m prime sur la distance au carré, avec une constante qui est ce qu'elle est. Les esprits un peu critiques, curieusement à l'époque c'était plutôt les jésuites qui étaient cartésiens, ont tout de suite remarqué qu'il manquait quelque chose de fondamental dans cette équation, c'est le temps. Dire que F égale GMM' sur D2, c'est dire que instantanément, quand vous modifiez la position d'une masse quelque part dans l'univers, ça influe sur toutes les autres masses de l'univers. Alors pour ceux qui ont entendu parler de relativité d'Einstein, une interaction qui est instantanée de portée infinie et qui agit instantanément à l'autre bout de l'univers, c'est légèrement problématique. Et donc, on peut aussi creuser...
Ça veut dire que l'information se déplace plus vite que la vitesse de la lumière, c'est ça ?
Ça veut dire que Newton ne se pose pas la question de l'information, qui est effectivement le problème que Einstein va introduire. La question que Einstein se pose, c'est effectivement, est-ce que l'information se propage ? À quelle vitesse se propage-t-elle ? Et le principe de base, ou l'un des principes de base de la relativité, c'est que ni l'information, ni l'énergie ne peuvent être transportées plus vite que c'est, que la vitesse de la lumière dans le vide. On peut tricher avec, on peut faire... Je me suis beaucoup amusé, par exemple, pendant longtemps, à faire courir des impulsions lumineuses plus vite que c'est, mais je ne pouvais y arriver qu'en leur retirant tout intérêt. C'est vraiment urgent pour qu'elles ne portent ni information ni énergie. Dans le cas, on avait des objets mathématiques qui se propageaient, mais pas d'information et pas d'énergie, qui est l'essence même de la physique qui intéresse les gens qui font des applications.
Alors, on parlera sûrement tout à l'heure de la relativité restreinte et la relativité générale, mais en deux mots, est-ce qu'aujourd'hui, on pense bien connaître cette force de gravitation ? Est-ce qu'on a l'impression d'avoir fait le tour de cette force-là ?
En deux mots, absolument pas.
Alors, voilà, pour qu'il y ait un peu une rivalité, alors on la comprend quand même dans ses grandes lignes, en tout cas, on est capable de la décrire relativement précisément par cette théorie de la relativité générale, qui est due à Einstein, publiée en 1915, où on semble comprendre un certain nombre de choses, au moins dans la description mathématique de l'interaction entre deux corps à distance, en tenant compte de la propagation de l'information. L'idée, c'est que, dans le cas de Newton, si le Soleil disparaît, la Terre continue en ligne droite à vitesse constante à la vitesse qu'elle avait au moment où le Soleil a disparu, et ça se fait exactement au moment où le Soleil disparaît. Si maintenant, en relativité générale, si le Soleil devait disparaître, la Terre ne va pas continuer en ligne droite tout de suite, elle va continuer à tourner ou à suivre une trajectoire qui était celle qu'elle avait avant, le temps qu'elle se rende compte, tout à l'heure on avait Wall-E Coyote, le temps qu'elle se rende compte que le Soleil n'est plus là. Hein, comme Wall-E Coyote, il est en l'air un certain temps, jusqu'à ce qu'il se rende compte que la formation est dans son... Donc il a une sorte de gravité qui se déclenche. Il est sensible à la gravité au moment où il comprend qu'il n'a plus de support sous lui. Donc là, c'est une version, disons, marrante de la situation, disons, toute hypothétique de la disparition du Soleil, où la Terre continuera à tourner sans Soleil le temps qu'elle se rende compte que le Soleil n'est plus là, et là, elle irait éventuellement en ligne droite à vitesse constante. Donc, on comprend assez bien la gravité parce qu'elle a eu des conséquences, cette théorie de la relativité générale, malgré tout, des conséquences qui ont été vérifiées sur le mouvement fin de Mercure autour du Soleil, sur la déviation de la lumière causée par la présence du Soleil, et plus généralement par la présence de masse importante dans l'univers, avec un effet qu'on appelle les effets de lentilles gravitationnelles, avec la prédiction des ondes gravitationnelles que l'on observe actuellement. Mais évidemment, l'hypothèse sur laquelle est fondée la relativité générale, c'est que les corps tombent de la même façon dans les champs de pesanteur. La chute libre est universelle. Ça, c'est une hypothèse qui est vérifiée avec une très grande précision. Alors, initialement, à l'époque de Galilée, ils tentaient des études apocryphes de laisser tomber des boulets, un lourd boulet de plomb et un lourd boulet, enfin, le même boulet de la même taille, mais en bois, du sommet de la tour de Pise, pour constater qu'ils arrivaient en bas en même temps. Les manips se sont raffinées au fil du temps. Le satellite Microscope a montré l'année dernière que, en orbite autour de la Terre, en faisant tout un tas d'astuces, en montrant que des objets tombent de la même façon, des objets de masse différente et de composition différente tombent de la même façon, avec une précision relative de 10 puissance moins 15. Donc une millionième de partie par... Un millionième de millardième. Tout ça pour ça fonctionne assez bien. Mais l'hypothèse de base, elle est là. L'hypothèse de base, l'univers est d'agir, on la constate, on ne sait pas la justifier.
Alors, je voudrais faire une parenthèse, parce que cette idée que tous les corps chutent de la même manière, elle n'est pas du tout intuitive, parce que si vous faites l'expérience chez vous, vous verrez une grande différence à cause de la résistance de l'air. Et il y a eu une expérience qui a été faite pour vraiment des objectifs de pédagogie J'ai le petit film, donc on va demander aux techniciens de nous passer ce film. Donc ça a été une expérience que tu vas peut-être pouvoir nous commenter, qui a été faite en Grande-Bretagne.
Alors ça a été fait en Grande-Bretagne pour le besoin d'un documentaire scientifique. Et l'idée a été, si c'est bien la même expérience, de laisser tomber une lourde boule de bowling et une plume d'autruche dans une immense cavité.
Voilà.
Là, elles sont décrochées. On les lance tomber dans une immense cavité dont on a enlevé l'air.
Alors, évidemment, quand on... Là, on a enlevé l'air de cette cavité, d'accord ? Si on laissait l'air, la résistance ferait que les plumes...
Ah, la plume va volter comme ça.
Volette, et la bulle va tomber. Et elle tombe beaucoup plus tard que la boule. Et là, regardez ce qui se passe.
Là, ça retombe exactement au même rythme. Là, la chute a été ralentie pour me donner une sorte de majesté à la chute. Ce n'est pas la chute à vitesse réelle. Mais on voit très, très bien que les plumes d'autruche, légères et flottant dans l'air habituellement, tombent exactement au même rythme que le boulet, que le lourd boulet. Peut-être on peut la repasser parce que c'est très cool à voir à
Allez,
chaque fois.
On
c'est
se fait
peu,
plaisir, on la repasse.
C'est un peu fascinant. J'ai dû voir ce genre de manip 2 milliards de fois, mais c'est toujours aussi fascinant. C'est absolument en même temps. Voilà, c'est à l'œil. Alors on peut rendre ça plus quantitatif, bien sûr.
Voilà, là encore, difficile de ne pas être d'accord avec Roland, oui. Mais on peut quand même pinailler. C'est absolument en même temps, c'est vrai, mais le temps de chute n'est pas le même que celui qu'on aurait si on laissait tomber soit une boule, soit une plume. En l'occurrence, ce qu'on néglige dans ton analyse, quand tu dis que c'est exactement le même temps, que c'est absolument le même temps, c'est le fait que les deux attirent aussi la Terre. Donc la Terre remonte, alors effectivement elle remonte de la même façon quand on a les deux qui tombent en même temps, mais si on fait tomber seulement l'un des deux, la Terre remonte un peu moins parce qu'elle est moins attirée par la plume, et le temps de vol n'est plus exactement le même.
Exactement. Ça, c'est une subtilité très subtile, très faible. La même remarque, chaque fois que vous sautez en l'air, vous repoussez la Terre, incontestablement, puisqu'il y a conservation de ce qu'on appelle de la quantité de mouvement, le produit de la masse par la vitesse. Au début, rien ne bouge. À la fin, vous montez, donc la Terre doit reculer un peu, mais avec une vitesse relative. Regardez, je vous laisse profiter de la chute. Avec une vitesse relative qui va être en rapport de la masse de la Terre sur votre masse. Inutile de vous dire, vous êtes beaucoup plus léger que la Terre. Donc, vous la faites reculer, pas beaucoup.
Légèrement.
Mais voilà, c'est ce genre de subtilité qui fait que, pour bien maîtriser complètement ce qu'est la chute des corps, ce qu'est la gravitation, il faut être capable, effectivement, d'aller chercher la petite bête dans tous ses détails, fût-ce dans des détails totalement impossibles à mesurer, mais ça montre la compréhension fine que l'on a. Si vous étiez à l'inverse, alors, dans une situation, disons, orbitale, vous êtes en orbite, et si vous êtes face à un astronaute, on est face à face, moi et Eric, et on se repousse, nous allons simultanément nous écarter de la position fixe que nous occupions avant de nous repousser. Nous allons simultanément nous repousser avec des vitesses voisines, parce que nos masses sont voisines, relativement voisines.
Pas tout à fait,
malheureusement. Pas tout à fait, mais relativement voisines, malgré tout. Et donc, nous allons reculer l'un de l'autre avec la position centrale, enfin, la position du centre de gravité qui était celle de notre système avant que nous nous repoussions. Donc voilà, ces idées-là sont évidemment tout à fait justes, effectivement, et permettent de rentrer dans le détail de la mécanique des corps.
Oui, pour revenir sur la question de Bénédicte, est-ce qu'on comprend effectivement mieux la gravitation aujourd'hui ? Oui et non, effectivement, on comprend beaucoup de choses. La théorie de la relativité générale marche remarquablement bien dans plein de domaines, et en particulier pour l'astrophysique. Elle a quand même un certain nombre de particularités. Alors, d'une part, on ne peut plus vraiment parler de force. Pour la théorie de la relativité générale, la gravitation est géométrisée. C'est la courbure de l'espace, c'est la géométrie de l'espace-temps, en l'occurrence, qui va déterminer la chute des corps, et non plus une force plus ou moins hypothétique à la Newton. Il reste malgré tout un certain nombre de petits mystères. Alors, le plus gros, c'est qu'on a deux grandes théories qui apparaissent au début du XXe siècle, qui sont la relativité générale en particulier, et la mécanique quantique, et qu'on ne sait toujours pas combiner les deux. Donc le défaut majeur de la relativité générale, c'est qu'elle n'est pas compatible avec la mécanique quantique, qui est aussi une théorie qui marche merveilleusement bien pour pratiquement tout. Mais il y a un autre problème qui avait été posé, là encore, dès l'introduction des principes mathématiques de Newton. Newton distingue deux types de masse. Il y a la masse inertielle et la masse pesante. Masse inertielle, c'est celle qui fait que quand un objet est lancé, il va continuer sur son air pendant un certain temps, et que la quantité de mouvement qu'il a emmagasiné est proportionnelle à donc, ce qu'il appelle la masse inertielle. Par ailleurs, il y a une masse pesante qui est le fait que quand un objet a une masse, il va être attiré par la Terre avec une force qui est proportionnelle à cette masse. Pour Newton, ces deux masses sont égales parce qu'elles sont égales. On n'a absolument aucun argument en faveur de ça. On n'a aucune démonstration aucun argument théorique pour dire que ces deux masses sont égales, et la théorie de la relativité ne l'apporte pas non plus. Alors, ce qui est vérifié dans la théorie de la relativité, c'est, alors, quand on écrit la formule la plus connue du monde, probablement, qui est E égale MC2, c'est une masse inertielle qui intervient. Et là, on est dans la physique qui est parfaitement vérifiée, qui a été vérifiée par toutes sortes d'expériences, et on a l'impression d'à peu près bien comprendre aujourd'hui ce qu'est une masse inertielle, en particulier dans le cadre de la relativité générale. La masse pesante, eh ben, on fait toujours semblant de croire qu'il n'y a pas de vrai problème, que c'est la même chose que la masse inertielle et qu'on s'arrangera bien comme ça. On n'a toujours pas vraiment compris.
Et qu'est-ce qui se passerait si ce n'était pas du tout les mêmes quantités ? Si on avait deux masses inertielles et pesantes différentes, qu'est-ce qui passerait ?
On pourrait, bah, typiquement, si vous avez une voiture de Formule 1 que vous êtes capable de charger en essence avec une quantité d'essence suffisante pour la faire fonctionner, mais qui a une très faible masse, vous gagnez en performance. Votre voiture, alors vous pouvez avoir une masse pesante qui est la même, qui va vous permettre de vérifier tous les règlements et d'avoir une voiture qui fait, je ne sais plus si c'est 500 kg ou 540 kg et pas moins. Et en même temps, si vous avez une très faible inertie, vous allez pouvoir accélérer beaucoup plus fort. Si vous avez une masse pesante et pas de masse inertielle, avec la même masse sur la balance, vous allez pouvoir accélérer beaucoup plus fort avec le même moteur.
Alors, ce rapport, je conclue quand même que ce rapport, il est mesuré. C'est ça dont on parlait quand on voit la chute des corps.
Absolument.
Ce qu'on peut dire sur la chute des corps, pourquoi les corps tombent de la même façon, si on part de l'idée qu'ils tombent de la même façon, disons qu'on le constate, et maintenant on le mesure avec une très grande précision. On peut se dire qu'un corps, il tombe pourquoi ? Parce qu'il subit la force de pesanteur, ça c'est la vision Newton, il subit la force de pesanteur, et donc c'est sa masse, cette force de pesanteur, elle va dépendre de sa masse gravitationnelle. Donc un corps massif, il va être tiré plus fort qu'un corps qui l'est moins. En même temps, un corps qui est massif, il a aussi une inertie qui va être plus grande, l'inertie donc est cette répugnance, qui est mesurée par la masse inertielle, qui est cette répugnance à changer d'état de mouvement sous l'effet d'une force. Alors un corps qui a une grande masse inertielle, ben, il va être difficile à mettre en mouvement. Un corps qui a une petite masse inertielle, il va être facile à mettre en mouvement. Eh bien, ça tombe bien, si la masse inertielle, la répugnance à changer d'état de mouvement sous l'effet d'une force, et la masse gravitationnelle, qui est l'équivalent de la charge électrique finalement, qui est la quantité qui vous permet de comprendre à quel point vous êtes sensible à un champ gravitationnel, par exemple celui de la Terre, eh bien, si ces deux masses sont égales, un gros corps est difficile à mettre en mouvement, mais il subit une force plus forte. Et un petit corps sera facile à mettre en mouvement, mais il subit une force faible. Et donc, si ces deux forces se compensent exactement dans chaque cas, les deux corps vont chuter, vont accélérer et vont avoir un mouvement identique. Donc, c'est ça l'idée de cette universalité de la chute des corps, qui est une manière de vérification de cette identité visuelle, mais qu'on peut rendre très précise et très quantitative, de la masse inertielle et de la masse gravitationnelle. Donc, ces deux choses-là sont différentes conceptuellement. Il se trouve, et c'est un peu d'une façon un mystère, et c'est le fondement même de la relativité générale d'Einstein, que ces deux quantités sont, et de même de la théorie de Newton, que ces deux quantités sont égales expérimentalement avec une très grande précision. Et donc, si on cherche encore à vérifier leur égalité, c'est on cherche à tester, là c'est important pratiquement du point de vue méthodologique en science, on a une hypothèse, elle fonctionne très bien, on dit c'est égal strictement, mais l'égalité mathématique, c'est l'égalité stricte, c'est pas 10 puissance moins 2, 10 puissance moins 20, 10 puissance moins 50 près, c'est l'égalité stricte. Donc on cherche à mesurer ces deux masses, à les comparer, ou à mesurer leur rapport, pour savoir si, jusqu'à quel point cette égalité est vérifiée. Est-ce qu'à 10 puissance moins 20, on n'en est pas capable pour l'instant, on est plutôt à 10 puissance moins 15 comme pression relative, mais est-ce qu'à 10 puissance moins 20, il y aurait une violation de l'égalité ? Si c'est vrai, ça remet en cause le principe fondateur de la relativité générale. Donc il faudra l'amender un peu à une hauteur très faible, parce que la violation sera très faible, mais il faudra l'amender un peu. Donc c'est pour ça qu'on fait encore ces mesures de chute des corps, de vérification de la chute des corps, est-ce qu'elle est vraiment identique pour tous les corps de masse et de composition ? Ça pourrait dépendre de la composition de masse et de composition différentes.
Là encore, je ne peux qu'être d'accord sur le fait que c'est absolument vérifié pour toutes les mesures qu'on a été capable de faire. Je suis moi-même atomiste, opticien, ça marche très bien avec les atomes, à l'échelle de l'atome, et je n'ai aucune indication d'autre chose, mais je modérais ce matin une table ronde sur la physique subatomique, donc avec des physiciens des particules, des physiciens nucléaires, qui ont tenu à expliquer que Bah pour eux, il n'était pas du tout évident que la gravitation existait à l'échelle des bosons intermédiaires, à l'échelle des particules subatomiques, parce qu'on n'a absolument aucune mesure dans ce domaine-là. Je disais tout à l'heure qu'on n'avait pas de théorie quantique de la gravitation. Le monde subatomique est un monde qui est entièrement décrit par la mécanique quantique. Dans leurs équations, dans leur modèle du monde, il n'y a pas de gravitation. Ils sont très embarrassés quand on leur demande si les particules qu'ils manipulent sont ou non sensibles à la gravitation.
Absolument. C'est-à-dire que si on prend ne serait-ce que la loi de Newton, la loi en 1 sur R2, les deux corps s'attirent proportionnellement au produit de leur masse et inversement proportionnellement au carré de leur distance. Est-ce qu'on peut vérifier cette loi? Est-ce qu'elle marche bien? Alors on prend deux gros boulets, on regarde comment ils s'attirent. C'est une manip assez subtile. Il faut prendre un effet parce que du coup, la masse de l'expérimentateur influence la mesure puisqu'il est là, il pèse et il attire lui-même les boulets. Donc il faut être un tout petit peu attentif à ce qu'on fait. Mais disons que, imaginons qu'on sache bien faire ça, on vérifie que c'est bien en 1 sur R2. On peut le vérifier en descendant les tailles, on peut le vérifier en montant les tailles, les échelles de tailles. Alors ça marche très bien dans les planètes, ça marche très bien peut-être dans les galaxies, peut-être pas, il y a la matière. Les galaxies semblent tourner plus vite que la quantité de matière lumineuse semble le suggérer. Donc on a une gamme de tailles où on sait que la gravitation, en tout cas version newtonienne et ses raffinements d'Einstein, fonctionnent très bien, mais à très petite échelle de taille ou à très grande échelle de taille, ça veut dire à l'échelle d'une galaxie au-delà, on n'a pas vérifié ça. On sait le faire à l'échelle du système solaire très bien, à l'échelle des planètes, à l'échelle des kilomètres, à l'échelle du mètre, du centimètre, du millimètre, ça commence à être difficile. Et alors là, en dessous, du millième de millimètre, on n'a pas idée si la force en 1 sur R2 fonctionne bien. La loi de Newton, ou Einstein en généralisant, fonctionne bien. Donc on a quand même une zone de mesure qui n'est pas toute l'échelle de distance.
On sait faire tomber des atomes aujourd'hui. On sait réaliser des condensats de Bose-Einstein. Ils sont des petits nuages de quelques millions d'atomes. Et ce n'est pas beaucoup, quelques millions d'atomes. Et ils tombent avec les mêmes règles que les objets microscopiques sans difficulté particulière.
Ils s'attirent entre eux, c'est-à-dire qu'ils sont sensibles à la masse de la Terre de la même façon qu'une poussière, de la même façon qu'une tomate. Mais entre eux, ils s'attirent avec des forces qui sont évidemment gravitationnelles aussi, mais dominés par d'autres forces atomiques. Ils ont d'autres forces qui s'expriment plutôt à l'échelle de ces atomes et qui dominent complètement la gravité. Et pour le coup, on ne sait pas tellement démêler l'effet faible, très faible, pour un si petit nombre de particules de la gravité, de forces beaucoup plus fortes. Et là, combien plus fortes, entre l'électrostatique ou disons l'amplitude des forces qui sont de l'ordre de 10-2 en valeur relative, la gravitation sera 10^-36. Donc là, on se trouve avec une force qui est vraiment si minable que on n'en tient pas compte, mais on aimerait savoir si elle s'exprime de la même façon, si elle s'exprimait de la même façon, si on pouvait ôter, effacer les forces très dominantes à cette échelle, qui sont les forces, disons, quantiques, les forces atomiques.
Très bien. Je voudrais revenir sur l'effet de la force gravitationnelle sur nos propres corps. Est-ce qu'on pourrait... Comment on peut annuler la force de gravité, la force gravitationnelle due à la Terre, qui est la gravité? Comment est-ce qu'on fait ça? Et derrière cette question-là, je voudrais qu'on se dirige vers ce qui est à l'écran actuellement, c'est-à-dire comment on peut s'arracher de la surface de la Terre pour explorer l'univers.
Donc, alors, annuler la gravité, d'une certaine façon, c'est facile, mais dangereux. C'est facile, il suffit de... Par exemple, si vous sautez de la mezzanine là-haut, pendant il y a une dizaine de mètres, environ un peu moins de 2 secondes, vous allez pratiquement annuler la gravité dans votre référentiel en chute libre. C'est précisément ça qui est l'idée fondatrice d'Einstein de sur la relativité générale. C'est imaginez-vous sur la boule de bowling en train de tomber avec elle. Vous êtes dessus, la boule plus vous, c'est plus lourd, mais elle tombera exactement comme elle tombait sans vous. Et la plume va tomber exactement comme elle tombait. Et vous allez voir la plume devant vous. Et dans votre référentiel en chute libre, vous avez l'impression que la plume reste devant vous. Vous avez dit, c'est marrant, la plume, elle tient en l'air toute seule, comme si la gravité avait été effacée pendant que vous êtes en chute libre. Donc là, si vous jetez de la mezzanine pendant, mettons, 2 secondes, vous allez être en chute libre. Pas tout à fait, il y aura les frottements de l'air sur votre corps. Vous serez en microgravité pendant ces 2 secondes. Et là, vous pourrez expérimenter l'absence de pesanteur. Vous sortez les clés, donc là vous êtes promis à une mort certaine en réalité, mais faites de la physique avant de mourir. Vous sortez de votre clé, donc vous préalablement vous montez le coup, vous tenez un objet dans votre main et vous le lâchez pendant que vous chutez. Cet objet qui chutait avec vous parce que vous le teniez va chuter avec vous aussi, même si vous le lâchez. Modulo l'air, il y a des petits frottements différents entre la bouteille sur la bouteille et sur vous, des problèmes de surface vont interagir. Donc, vous pouvez effacer la gravité. C'est toute l'idée d'Einstein. Si on peut effacer la gravité, trouver un référentiel particulier dans lequel la gravité n'est pas là, alors on va pouvoir construire une théorie différente de la gravité. Alors après, j'imagine, je vais laisser maintenant la parole à Eric, j'imagine que tu évoques l'idée que oui, ça c'est bien gentil, mais j'aimerais faire... et hop, je fais monter à la main, je fais de l'anti-gravité.
On verra ça après.
On verra ça après, mais l'idée qu'on pourrait effacer la gravité d'une autre façon que simplement en montant en chute libre. Et ce qui permet aussi, on a un dessin qui était là, qui était marrant tout à l'heure, sur lequel on peut réagir. Donc tant que vous êtes en chute, tout va bien. On a l'impression de dire que c'est la chute qui est dangereuse. Ce qui est dangereux, c'est pas la chute, c'est l'arrêt de la chute. Parce qu'à ce moment-là, vous écrabouillez sur le sol. Sauf si vous êtes en chute libre permanente. Et la chute libre permanente, ça s'appelle être en orbite autour de la Terre.
Eric.
Alors en fait, j'ai même pas besoin de faire semblant d'être en désaccord avec Roland comme j'ai fait jusqu'ici. Là, je suis franchement en désaccord avec la notion qu'on est en microgravité quand on est en chute libre. On est effectivement en chute libre. C'est effectivement un principe fondamental de la relativité générale qu'il n'y a aucun moyen de faire la différence entre une force d'accélération et une force de gravité. Mais c'est pas parce qu'on n'est pas capable de faire la différence entre les deux, et qu'on est effectivement en chute libre, qu'il n'y a pas de gravité.
Ah bien sûr. Nous, dans mon référentiel en chute libre, j'ai au moins localement, il faudrait préciser, pas trop loin, si je suis là dans cette pièce, par exemple, on ne voit pas l'extérieur. Et en fait, on est aux utopiales quand même. Donc en fait, depuis le début de la conférence, on n'est plus dans la cité des congrès. Enfin, on y est toujours, mais elle n'est plus à Nantes. En fait, on est dans une fusée qui accélère dans cette direction avec une accélération exactement égale à la gravité de la Terre, à la pesanteur, à l'accélération de la pesanteur de la Terre. Et je mens un tout petit peu. Vous n'avez aucun moyen de vous rendre compte de la différence. Je mens un tout petit peu parce que ça serait vrai localement si on était là, entre nous, à un mètre, et encore avec les instruments modernes, on aurait des moyens de vérifier ça. Mais si on fait une mesure ici et une mesure là-bas, c'est pas la même chose d'avoir une accélération uniforme et d'avoir une accélération qui est vers le centre de la Terre et vers le centre de la Terre. Donc on serait sensible aux effets de marée. Donc quelqu'un qui est en chute libre peut avoir l'impression que la pesanteur a disparu dans son référentiel, mais il va se rendre compte qu'il est dans un champ de gravité, parce que s'il a la place de faire la mesure, et s'il la fait soigneusement, il va se rendre compte que, tombant dans la Terre, il y a le centre de la Terre, il est par ici, de ce côté, mais il est par là, de l'autre côté. Je caricature, évidemment, à des échelles de quelques mètres, on ne voit pas la différence, elle serait difficile à mesurer. Donc effectivement, la gravité n'a pas disparu, mais dans son référentiel, on peut avoir l'impression que la pesanteur, au moins localement, dans l'espace et dans le temps, c'est les moins importants, a disparu.
C'est une confusion qu'on rencontre souvent dans les ouvrages de science-fiction, d'ailleurs, l'emploi du terme microgravité ou apesanteur plutôt que chute libre. C'est assez curieux parce que c'est une ambiguïté qu'on trouve rarement dans les textes anglais. Les Américains parlent de chute libre assez systématiquement.
Les auteurs français disent plutôt apesanteur.
On tendance à introduire de termes apesanteur ou microgravité qui ne sont pas dans les textes originaux, assez curieusement.
D'accord. Ah, ça, je savais pas ça.
Free fall en anglais.
Alors, la chute libre, on peut l'expérimenter de manière totalement safe, Roland, dans des avions 0G. Là, c'est une manière d'annuler complètement l'effet.
C'est une manière de reproduire une manière de disparition de la pesanteur, c'est-à-dire d'être en chute libre dans un avion complet. L'avion lui-même, alors pour faire ça, l'avion, il commence à monter sur une courbe qui va être une trajectoire parabolique, il coupe ses moteurs, mais pas tout à fait. Il y a trois pilotes qui maintiennent l'assiette de l'avion sur deux directions et puis un qui gère la poussée des moteurs pour compenser les frottements de l'air. Donc ils sont trois pilotes à faire ça. Et pendant la chute, il est au sommet de la parabole, les moteurs s'arrêtent, pas tout à fait, pour compenser les frottements atmosphériques. Et puis il y a une durée pendant laquelle l'avion tombe et tout son contenu tombe et les gens à l'intérieur expérimentent la chute libre.
Pendant l'ascension aussi. Oui. Et on donne un grand coup d'accélération pour acquérir une grande vitesse. Et une fois qu'on est à une vitesse suffisante,
on coupe.
Bien sûr, on coupe. Et on est en chute libre pendant la montée.
Il y a un morceau de parabole, exactement. Alors, d'abord, on est coincé dans son fauteuil. Si je veux dire, ils ne sont pas dans un fauteuil, ils sont allongés par terre. Et après, quand l'avion fait sa parabole, alors là, il y a une vingtaine de secondes, typiquement, de chute libre. Et puis après, il faut récupérer l'avion, hein, évidemment, sinon c'est un avion par manip, c'est cher, c'est dangereux pour les gens. On récupère et là, on se reprend. À l'inverse, cette fois-ci, les gens sont tassés dans leur fauteuil, ils subissent une pesanteur artificielle, pour le coup, due à la force de centrifuge, qui est beaucoup plus importante que la pesanteur habituelle.
Alors, pour quitter la Terre, il faut du coup exercer une force plus importante que la gravitation pour s'arracher de la surface de la Terre, et puis arriver à une force de libération de cette influence gravitationnelle. Et comme on est bientôt en 2019 et qu'on va fêter les 50 ans de la mission Apollo, est-ce que Roland, tu peux nous dire un petit mot sur la puissance qu'il faut fournir à la fois pour s'arracher de la Terre et aller jusqu'à la Lune ?
Alors, ça va dépendre de ce qu'on veut envoyer, mais l'idée étant que quand on jette une chose en l'air, on lui donne un mouvement initial et puis elle va être décélérée, la chose va monter, être ralentie parce qu'elle est tirée par son poids vers le bas, donc elle ralentit, sa vitesse s'annule et puis elle retombe. Il y a une fraction de seconde, on apprend qu'elle tient toute seule en l'air. Et puis elle retombe. Alors si on la jette plus fort, on a tendance à dire, mais en fait plus vite, elle va monter plus haut. Et puis ça va recommencer. Oublions les frottements atmosphériques pour simplifier les choses. Il existe une vitesse à partir de laquelle l'objet ne retombe plus sur Terre. Alors, il y en a même plusieurs, mais il y en a une qui est la vitesse célèbre dite de libération, 11,2 km par seconde, 40 000 km par heure, où l'objet non seulement ne retombe plus sur Terre, mais peut aller à l'infini. On pourrait, en lançant habilement l'objet, le mettre en orbite. Il ne s'éloigne pas à l'infini, mais il ne retombe plus sur Terre non plus. Plus exactement, il tombe sur Terre en la ratant à chaque instant. Donc, cette vitesse de libération, 40 000 km par heure, à peu près 11,2 km par seconde, il y a une petite subtilité. Mais enfin, c'est typiquement la vitesse que doivent atteindre les vaisseaux qui veulent atteindre la Lune. Ils ne veulent pas vraiment aller à l'infini, donc il y a une subtilité. Mais essentiellement, il faut atteindre ces grandes vitesses pour se libérer, c'est-à-dire pouvoir s'éloigner de la Terre en dépit de son attraction permanente qui s'exerce à toute distance, sans retomber sur Terre.
Éric, non.
Si, enfin, je ne peux que dire la même chose, peut-être dans des mots différents, mais il y a essentiellement deux façons de tomber, si on croit aux lois de Newton. On peut tomber en rond, en quelque sorte, avec une trajectoire parabolique. Alors, si cette trajectoire parabolique intercepte la Terre à un moment donné, on va retomber sur Terre. Si elle fait le tour et qu'elle tombe un peu plus loin, on va être en orbite. Et l'autre trajectoire possible, c'est une hyperbole. Et effectivement, l'hyperbole, elle ne retombe pas, va vers l'infini. Et la vitesse de libération qu'évoquait Roland, c'est le passage entre les deux types de trajectoires. On passe d'une trajectoire parabolique à une trajectoire hyperbolique. Et tout ça est très bien connu et très bien maîtrisé.
C'est très connu, parce qu'en fait, même quand on regarde un film que tu connais parfaitement, j'en suis sûr, Frau im Mond, par exemple, de Fritz Lang, 1929, dans le film, un film muet, d'envoyer des humains vers la Lune, dont une femme, qui est le personnage important, et elle montre à un moment donné la trajectoire de la fusée qui va vers la Lune, et la trajectoire qui est dessinée, et la vitesse qui est mise en œuvre, c'est la vitesse de libération, la trajectoire qui est dessinée, c'est des trajectoires typiques qui ont été suivies par les fusées lunaires. Donc en 1929, Fritz Lang a été renseigné, il a Hermann Oberth, un des pères fondateurs de l'astronautique moderne, qui l'a renseigné pour ces calculs-là, et donc on sait tout faire, on sait tout penser, calculer, dès 1929, et même avant, avec Tsiolkovsky, on sait tout penser sur aller sur la Lune. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Comment se propulser? Quelle trajectoire adopter? Tout ça est très clair dès les années 29, donc 40 ans avant qu'on sache le faire en pratique.
Pour l'anecdote, puisqu'on est aux Utopiales, je voudrais souligner que la toute première mention historique de quelque chose qui ressemble à la pesanteur, c'est-à-dire d'une absence, non pas d'une absence de gravité, mais d'une compensation exacte de la gravité à l'endroit où l'attraction terrestre compense exactement l'attraction lunaire, est dans un roman de science-fiction. Johannes Kepler, qui est l'immense astronome que tout le monde connaît, est aussi le premier auteur de science-fiction, en tout cas pour certaines définitions de la science-fiction. Il a écrit un livre qui s'appelle Le songe ou l'astronomie lunaire, dans lequel il envoie son personnage principal sur la Lune. Et effectivement, pendant le voyage, il s'aperçoit à un moment donné qu'il est en chute libre, qu'il n'est plus attiré par la Terre, ou en tout cas que l'attraction terrestre est compensée exactement. Et cette idée fondamentale pour l'astronautique moderne est en fait une pure idée de science-fiction qui est apparue dans un roman de science-fiction écrit de mémoire en 1609 et qui a dû être publié après la mort, à titre posthume, après la mort de Kepler en 34, je crois, en 1634.
De même, dans la science-fiction, on a des substances antigravitationnelles.
Ah oui, alors on peut en imaginer, il y a la Cavorite, je crois. Alors elle, évidemment, elle est tout à fait étonnante. C'est un écran à la gravité, avec une idée peut-être simple. Alors je ne sais pas, je n'ai plus en tête si c'est ça qui est fondé dans le roman, mais qu'on peut faire un écran au champ électrique, ou au champ magnétique, ça s'appelle une cage de Faraday. Alors, si on peut faire écran au champ électrique et magnétique, pourquoi pas faire un écran au champ gravitationnel ? Et si vous faites écran au champ gravitationnel, vous n'êtes plus sensible. Voilà, ceci est un morceau qui fait écran au champ gravitationnel. Eh bien, je monte dessus et je ne sens plus mon poids. Et je suis en impesanteur, littéralement, en montant sur ce truc. Évidemment, ça ne marche pas, parce que vous voyez, il tombe. Donc, si vous savez faire ça, wow, grand luxe. Alors, évidemment, la recette de la cavorite, c'est en mélangeant quelques produits subtils. On ne rentre pas dans les détails. Et puis, c'est un peu curieux, parce que ça permettrait de faire une machine à mouvement perpétuel. Vous pourriez imaginer une roue de vélo. Si vous ne faites rien, elle est à l'équilibre, elle ne bouge pas. Vous mettez un morceau de quelque chose qui annule le poids d'une partie, mettons la partie pour moi droite et pour vous gauche. Si vous annulez ce poids, l'autre partie pèse, celle-ci ne pèse pas, la roue va se mettre spontanément à tourner. Vous n'avez rien fait, vous avez juste mis le truc et ça tombe tout seul. Vous mettez un générateur électrique, c'est parti, on n'a plus de problème d'énergie pour les siècles des siècles. Vous voyez, il n'y a pas besoin de se casser la tête à inventer des nouvelles choses. Il faut trouver la cavorite. Ça, c'est un matériau imaginaire, extraordinaire pour permettre des voyages, mais il y a eu d'autres solutions.
Oui, on a rêvé de beaucoup de choses. On a rêvé de masse négative, par exemple, qui peut être bien pratique aussi. Et si vous voulez annuler la gravité, vous prenez une masse négative, vous la mettez en face d'une masse positive équivalente, et puis la somme des deux vous donne une gravitation nulle. Mais on attend toujours de les trouver.
Alors, on a évoqué rapidement la relativité générale. J'aimerais bien qu'on imagine une chute des corps en champ fort, c'est-à-dire autour d'astres très très massiques, je ne sais pas combien de fois ou milliers de fois la masse du Soleil, une naine blanche ou un trou noir. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui va changer par rapport à une chute libre sur la Terre, par exemple ?
Ça, j'ai vu passer tout à l'heure la couverture d'incandescence de Greg Egan. C'est un roman. Presque de littérature expérimentale. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu Greg Egan, mais... Bon, je suis physicien professionnel, je l'ai lu avec un papier et un crayon pour faire des petits crobards pour essayer de comprendre ce qui se passait. Et Greg Egan est allé jusqu'à faire des pages d'équations sur son site web pour que les amateurs puissent aller vérifier ces équations. Mais c'est un roman, alors c'est le plus impressionnant des romans récents de science-fiction pour moi, même si c'est quasiment illisible, mais c'était une expérience littéraire tout à fait fascinante, où il rejoue la révolution galiléenne, donc il rejoue l'aventure de Galilée, effectivement autour d'un objet, je ne sais plus si c'est un trou noir ou une naine blanche, en tout cas un objet extrêmement, extrêmement massif. Donc on a des êtres microscopiques, parce qu'on est très près de la planète, qui habitent un petit astéroïde creux, qui essentiellement n'ont pas de science, sont des petits animaux pas très malins, mais qui se retrouvent en danger parce que les conditions environnementales changent et qu'ils sont obligés de réinventer la science. Donc on suit le Galilée local qui va réinventer la méthode scientifique et qui va refaire les expériences de Galilée. Donc effectivement faire tomber deux objets, enfin, l'expérience qu'on a vue tout à l'heure. Sauf qu'il est effectivement en champ fort. Et les remarques que faisait Roland tout à l'heure en disant que dès qu'on se déplace un petit peu... Le centre de la Terre ne va pas être exactement le même sur un bout, d'un bout à l'autre de la scène. En champ faible, il faut vraiment des instruments très très précis pour le mesurer. En champ fort, non. Dès qu'on essaye de cartographier ce que devient la trajectoire d'un objet, un objet laissé à lui-même va tomber en ligne droite. La chute libre va être en ligne droite sur une ligne particulière de l'astéroïde. Et sur à peu près n'importe quelle autre ligne, on aura en fait des ellipses. Et donc on va être obligé de faire une cartographie des champs beaucoup plus compliquée. On va avoir une gravitation qui va dépendre du lieu. Comme on est en relativité, ce Galilée-là ne peut pas faire les approximations habituelles qui permettent de négliger la relativité. Donc il est obligé non pas d'inventer la physique newtonienne ou galilienne ou newtonienne, mais d'inventer la relativité générale. Et l'un des problèmes fondamentaux en relativité générale, c'est que en relativité restreinte, les horloges ne battent pas toutes à la même vitesse en fonction de la vitesse relative des observateurs et des horloges. En relativité générale, ça dépend aussi de la distance. Et donc, il est obligé de développer une physique où les horloges ne battent pas au même rythme aux différents endroits, les objets ne tombent pas de la même façon selon l'endroit où on est, et on se retrouve avec une physique qui est inhabituelle, mais malgré tout explorable par une méthodologie relativement similaire à ce qu'on sait faire aujourd'hui.
Roland, cette oui. physique d'échamphore, par exemple, autour du trou noir, est un peu explorée dans le film Interstellar.
Oui, alors dans Interstellar, il pousse ça à l'extrême, mais de façon, disons, plausible, pensable en tout cas, avec l'idée que ce que disait justement Eric, c'est que les durées mesurées par des horloges ne sont pas les mêmes selon, alors on dirait en gravitationnel, en newtonien, selon l'intensité du champ gravitationnel dans lequel elles sont plongées. Autrement dit, une horloge au sol et une horloge en altitude vont battre des secondes identiques parce que la physique sera la même pour chacune des horloges, mais quand on va comparer, elles vont mesurer des durées différentes. Une horloge au sol, si vous prenez deux horloges là posées sur la table, parfaitement synchronisées, très précises, qui battent exactement les mêmes durées, exactement en phase, et puis vous en prenez une et vous la montez. Alors, vu la précision dont on dispose actuellement sur les horloges atomiques, on est capable, en la montant d'un mètre, ça suffit. Mais alors, les horloges du réseau GPS, elles sont montées à 20 000 km d'altitude. Donc là, les écarts sont encore bien plus considérables. Donc vous montez cette deuxième horloge et vous gardez la première au sol. Elles étaient au départ initialement parfaitement synchrones. Et vous les montez, vous allez constater qu'elles vont se désynchroniser, que celle au sol, dans le potentiel le plus important, en subissant le puits de potentiel, au fond du puits de potentiel, va retarder par rapport à l'horloge qui est en altitude. Et que ce retard, il est microscopique à nos échelles, hein, ce chiffre en milliardième de seconde, sur des échelles de quelques mètres, quelques dizaines de mètres, et bien sur les 20 000 km qui nous séparent d'altitude, qui nous séparent des satellites typiques du réseau GPS ou du réseau Galiléo européen, le retard... Alors on peut le compter en avance, c'est-à-dire les horloges du réseau GPS, elles ont en avance par rapport à une horloge atomique au sol d'à peu près 46 millionièmes de seconde chaque jour. Cette avance de 46 millièmes de seconde, si elle n'est pas corrigée, eh bien, comme on se fonde sur les mesures de distance à partir des mesures de durée de parcours, si les durées ne sont pas mesurées de façon cohérente, on va se retrouver avec un écart de mesure de 46 millionièmes de seconde. Et comme c'est des ondes électromagnétiques qui transportent cette information, qui se déplace à 300 000 km par seconde, 46 millièmes de seconde, 300 000 km par seconde, ça vous fait à peu près 13 km d'erreur de positionnement chaque jour. Donc ça veut dire que vous ne vendez pas le GPS à personne. Tout le monde se fout d'être positionné à 12 km près. Je fais ça trivialement, je suis à Nantes, ça me suffit. Et si je veux plus précis, j'ai une carte de Nantes avec des rues dessinées, ça me suffit. Si je veux être positionné au mètre près, il faut absolument compenser cet effet de relativité générale, cet effet de... mesures différentes d'horloges dans des potentiels de pesanteur différents. Et les effets au voisinage d'un trou noir, ou pour le coup l'équivalent relativité générale du champ de gravitation newtonien, est très intense, et du coup les écarts sont énormes. Et dans le film, on nous dit une heure sur la planète 2000 heures, celle qui est en orbite au voisinage du trou noir, ça correspond à 7 ans passés loin, 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 loin sur Terre, loin où on n'est pas sensible à la gravité ou à la déformation de l'espace-temps imposée par la présence du trou noir. Ce 1 heure, 7 ans, c'est vraiment un cas extrême, mais c'est encore compatible avec la relativité générale.
Alors, dans les premiers pas de l'homme dans l'espace, qui se déplace dans l'espace, on utilise la gravitation par l'effet de Fronde. On prend de la vitesse en s'approchant d'une planète et en profitant de son champ gravitationnel pour donner une poussée supplémentaire à un vaisseau, une sonde spatiale, etc. Quand l'homme sera avancé, sur quelle loi de la physique il va pouvoir se reposer pour voyager plus facilement ?
Alors, d'abord, cet effet dont vous parlez, d'assistance gravitationnelle, c'est l'idée d'où vient l'énergie de mouvement supplémentaire du vaisseau. Eh bien, tout à l'heure, on disait, quand on se pousse sur la Terre, on la repousse un peu, etc. Ben là, on la prend à la vitesse de révolution de la planète autour du Soleil. Elle va tourner un peu plus lentement. Alors, vraiment, quand c'est un vaisseau qui fait 500 kg et que vous vous aidez avec Jupiter, vous imaginez bien que Jupiter ne va pas ralentir beaucoup. Mais cette énergie supplémentaire pour le vaisseau sera prise sur la vitesse, sur l'énergie orbitale de Jupiter. Alors, comment on pourrait faire ? Une solution, alors, qui est du coup très spéculative, pour dire le moins, c'est que si, quand vous vous dites que vous voulez aller vite d'un endroit à un autre... En fait, voyager vite d'un endroit à un autre, ce que vous voulez, c'est pas y aller vite. Ça veut dire que vous ne voulez pas y aller forcément à grande vitesse. Ce qui vous intéresse, plus probablement, c'est d'y aller en un temps qui est court. Alors, aller en un temps court d'un point à un autre, si ces deux points, c'est Paris et Marseille, mettons, séparés de 800 km, ben 800 km, c'est 800 km. La distance, elle est fixée. Donc, pour que la durée du voyage soit courte, il faut que cette durée, qui est la distance sur la vitesse, et la distance étant fixée, il faut que la vitesse soit grande. Donc, aller vite de Paris à Marseille, dans notre esprit, c'est comme y aller en un temps court, parce que la distance, elle est fixée et on ne peut pas y toucher. Alors si, vous pouvez passer par Bordeaux, mais bon, ce n'est pas très malin. Donc du coup, si l'espace-temps est sensible et déformé par la présence de masse et d'énergie, mais de masse-énergie en général, il est déformable, vous pouvez vous dire, ah oui, mais j'ai qu'à réduire la distance à parcourir et la franchir à des vitesses normales. Vous prenez Marseille, vous tirez Marseille, vous faites un pas, et vous lâchez Marseille. Voilà la caricature de l'idée. Il suffirait de déformer l'espace-temps habilement, de sorte que ça vous fasse, vous créez un trou devant vous, un puits potentiel, on dirait gravitationnellement, enfin newtoniennement parlant, vous déformez l'espace-temps devant vous, vous le contractez devant vous pour tomber dedans. Simultanément, il faut montrer qu'il faut le dilater derrière vous, et vous tombez spontanément dans cette zone-là en vous déplaçant à des vitesses tout à fait naturelles, mais simplement vous avez déformé l'espace-temps pour aller d'un point à un autre. Et vu de loin, on peut même montrer que vu d'un observateur très lointain, qui lui n'est pas sensible à ces déformations locales que vous imposez, il pourrait même avoir l'impression que vous déplacez plus vite que la lumière. Cette idée-là, elle a été avancée en 1994 par un physicien mexicain qui s'appelle Miguel Alcubierre et qui a proposé ça. Il y a eu des tas de raffinements derrière montrant que plein de choses compliquées se produisent avec ça et que c'est pas, la vie n'est pas si simple, évidemment. Mais une des causes de non-simplicité, c'est qu'évidemment, il faut contracter l'espace devant vous, mais un peu significativement, ce qui nécessite de manipuler des quantités de matière énormes dans des volumes petits, des objets compacts, donc par exemple des trous noirs. Si vous commencez à manipuler, à être capable de poser devant vous un trou noir qui a la masse de la Terre, qui fait à peu près 9 millimètres de rayon, vous pouvez commencer à discuter. Donc ça donne déjà une idée du niveau technique qu'il faut atteindre. Mais pire, derrière vous, il faut, et ça c'est inclus dans le, enfin c'est nécessaire dans la déformation pour que cette propulsion entre guillemets se produise, il faut aussi dilater l'espace derrière vous, et cette dilatation ne peut se produire que si, à l'inverse d'une masse positive, d'une matière dont l'énergie de masse est positive, vous utilisez une matière hypothétique dont l'énergie de masse est négative. Une masse négative dont parlait tout à l'heure Eric et dont on n'a pas vu la queue de l'ombre du début de l'existence dans l'univers que nous connaissons. Bon, donc vous avez besoin de manipuler les trous noirs et une matière exotique dont on n'a jamais vu l'existence pour l'instant. Donc c'est quelque chose qui est inclus dans la relativité générale. D'une certaine façon, on fait le plan et on détermine quelle matière, quelle distribution de matière est nécessaire pour avoir ce plan. Et ce plan, c'est je me déplace en déformant l'espace. Bon, il y a des étapes techniques qui vont nous manquer pour l'instant, qui nous manquent pour l'instant.
Alors, il se fait tard, donc je ne vais pas reprendre la main sur la relativité parce que c'est compliqué. Je vais revenir à ta question concernant les frontes gravitationnelles de façon beaucoup plus simple. C'est un pis-aller. C'est une technique qui a été développée dans les années 80, je crois, pour trouver le moyen d'envoyer un peu plus loin des sondes qui n'avaient pas d'assez gros moteurs. La solution pour explorer le système solaire, c'est simplement de développer des gros moteurs. Tout ce qu'on fait jusqu'à présent, c'est on lance une fusée, on accélère pendant un petit quart d'heure au maximum, et ensuite on éteint tout et on marche sur la vitesse acquise. On a besoin, si on veut explorer le système solaire, de réacteurs à poussée permanente. Sous un dixième de G, Mars n'est plus à 6 mois, Mars est à 3 semaines peut-être. Donc il faut développer des moteurs compatibles avec la conquête du système solaire. Ça, c'est des choses qui sont tout à fait faciles, envisageables au XXe siècle sans difficulté majeure. C'est un gros investissement, il faudra qu'il y ait une volonté politique, mais ce n'est pas un véritable problème technique. Si on ne parle plus du système solaire, mais comme tu me semblais le suggérer, des étoiles, là, la réponse est que malheureusement, on n'a pas la moindre idée de la façon dont on pourrait faire, et que dans un futur prévisible, on n'ira pas dans les étoiles, malheureusement.
Alors, on va prendre quand même une question. Le temps a tourné, mais vous avez peut-être une question à poser sur ce sujet passionnant de la chute libre et de la gravitation. Je pense qu'il y a des micros qui circulent. Si vous levez la main... Il y a une question ici. Alors, je ne sais pas s'il y a des micros.
Là-bas, on nous dit qu'il faut arrêter, bon, que voilà. C'est la fin, parce qu'il y a la remise des prix.
Il y a la remise des prix, bon, désolé.
On est là, on ne disparaît pas. Moi, je suis encore là demain. Je crois qu'Eric est là encore demain. On pourra discuter avec vous. Merci de votre présence.
Merci beaucoup.